La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde. Nous sommes à Kigali, au début de l'année 2022. En blouse blanche, gants et masques, des rescapés du génocide des Tutsis trient les documents administratifs accumulés depuis 1995 par leur association Ibuka. Des montagnes de papier recouvrent des dizaines de tables autour desquelles Vincent, Egidie, Gilbert, Karim, Innocent, Marie et tous les autres se sont regroupés pour les classer selon leur origine géographique ou thématique. Il y a la pile du district de Gazabo ou de Nyanza, mais aussi la pile Justice ou la pile Grand Tueur. Des mots inscrits à la main sur de grandes feuilles blanches scotchées au bord des tables. Face aux archives, c'est parfois sa propre histoire qui apparaît, celle de sa commune, de ses voisins ou de sa propre famille. Et c'est parfois insoutenable. Forte de cette expérience inédite à laquelle elle a participé de janvier à septembre 2022, l'historienne Hélène Dumas nous accompagne dans l'écoute des témoignages de l'équipe d'Ibuka, littéralement « Souviens-toi » en Kinyarwanda. Merci Hélène Dumas d'être avec nous.
Merci à vous Valérie Nivelon.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres incontournables, « Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda », c'est aux éditions du Seuil, Essentiel Niter aux éditions La Découverte. Nous nous retrouvons juste après l'écoute partagée de ce reportage face au génocide dans les archives d'Ibuka.
Mouramoutse. Ça va?
Amakuru.
Nimeza.
Ayawe.
Nitwa Vincent Nitanga.
Je m'appelle Vincent Nitanga.
Ngabandimo gukora archive.
Je suis en train de travailler dans ces archives.
Ya Ibuka.
Les archives d'Ibuka.
Ndo mukozi.
Ah, je suis un travailleur maintenant.
Ni byinshi.
J'apprends beaucoup.
Nyuma y'umushahara.
Après le salaire.
Mbonamo amateka menshi ntari nzi.
J'apprends beaucoup sur l'histoire que je ne connaissais pas.
Nitwa Murerwa Egidia.
Je m'appelle Murerwa Egidia.
Ikintu cyankoze ku mutima no kubona uko amateka yagenze.
Ce qui m'a touché, c'est que j'ai pu apprendre ce qui s'est passé en 1994, donc l'histoire et le déroulement des événements. Et j'ai vu même des procès dans ces documents. Aussi, j'ai pu constater comment l'administration a géré la situation et a pu punir certains bourreaux.
Est-ce que lorsque vous lisez ces documents, lorsque vous les classez, est-ce que ça vous arrive de tomber sur des documents qui non seulement vous racontent l'histoire, mais vous racontent l'histoire des vôtres, de votre cercle?
Oui,
oui. Il y a des documents que j'ai vus. Par exemple, je suis tombé sur un document concernant le bourgmestre de notre région.
Quelle région?
Gatsibo.
La région de Gatsibo. Un document sur Gatete Jean-Baptiste. C'est lui le responsable du génocide là chez nous.
Un duo franco-rwandais par ici. Ça, c'est intéressant de travailler en duo. Est-ce que c'est important justement de travailler à deux?
Moi, c'est très important pour moi parce que là, je ne comprends pas très bien le Kinyarwanda, donc Gilbert m'aide beaucoup pour découvrir et classer les documents. Et puis même, ça me permet aussi d'échanger sur le pays avec lui,
c'est sur sa vie.
Grâce à vous, Gilbert, Théotime peut un peu mieux comprendre ces archives qu'il est en train de trier. Ce sont les histoires de qui?
Munyeshuri dushobora gusanga a ifishi
tushobora kumenya amakuru yuko afite akazi cyangwa ntakafite cyangwa yaracicishije amashuri cyangwa yize bese dushobora kumenya umwirondoro we wese uko ameze nyuma
avec les informations qu'on trouve sur la fiche. Il y a l'identification de l'individu, mais aussi on peut savoir s'il a terminé ses études jusqu'au niveau de l'université, s'il a un travail ou bien s'il a des difficultés dans ses conditions sociales.
Muri ubwo buryo rero nshobora kuba namufasha kumubwira akarere atuyemo cyangwa na district nkamwereka bikaba byamworohera nkamwereka aho turi kubishyira.
Avec cet exemple, selon les informations que je lui donne concernant le district ou bien la région, ça aide au team à savoir où mettre le document.
On parle à chaque fois, bien sûr, de jeunes rescapés.
Yego, izi fiche zirebana naba bacitse ku icumi.
Oui, ces fiches ne concernent que les rescapés du génocide.
Ça, ce sont des fiches des rescapés, mais étudiants du génocide. Ça, c'est leur immatricule, là où ils habitent et là où ils ont fait leurs études. C'est tout ce qui est ici.
Voilà, pour avoir des informations sur la façon dont les jeunes ont repris leur scolarité après le génocide.
Oui, c'est ça. Je m'appelle Karim Chalon. Je travaille ici sur les archives.
Et qu'est-ce qui vous intéresse personnellement ?
En fait, ici, il y a beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages. Et la vie sociale des rescapés. Tout ça, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont fait leurs études. Ils ont eu la chance d'étudier. Et la vie continue.
C'est un travail difficile.
Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des choses très sensibles. Il y a des informations ou des choses très, 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 très sensibles. C'est très choquant. Il y a des témoignages que tu peux lire et c'est très choquant.
À cause de la violence.
Oui, à cause de la violence. Des jeunes femmes, des femmes.
Viol,
là, ouais, y a plein de viols là. C'est ça.
C'est très dur.
Ouais, c'est très dur.
Merci.
Merci à vous aussi.
Ici, à Kigali, le génocide est une mémoire vive. Les listes de noms des victimes sont gravées sur les murs des mémoriaux, partout dans la ville. Et le siège d'Ibuka, l'association des rescapés du génocide, se situe dans l'enceinte du mémorial de Nyanza, Kisukiro. C'est sur la route qui va à Nyamata. En 1994, ce sont des milliers de Tutsis réfugiés dans l'école ETO de Kigali qui ont été conduits et tués sur ces lieux mêmes, après le retrait des casques bleus qui les protégeaient. En face, un jardin de la mémoire pour se recueillir, et puis des arbres plantés symbolisant la culture ancienne du Rwanda. Les locaux d'Ibuka se situent à deux pas, et chaque matin, l'équipe des rescapés, à laquelle est associée l'historienne Hélène Dumas, partage le petit déjeuner, avant d'affronter à nouveau la salle des archives. Hélène Dumas, j'aimerais que vous reveniez sur un jour très important, le jour où vous, avec toute l'équipe, vous êtes donc rentrée ici dans cette grande salle d'Ibuka. Qu'est-ce qui s'est offert à vos yeux ?
Alors, nous sommes rentrés le 10 janvier 2022 dans cette salle. La salle était remplie du sol au plafond, de papier, mais aussi de cercueils, de sacs emplis des vêtements des victimes qui avaient été retirées des fosses communes récemment, notamment à Kabuga. On était vraiment dans la conservation au sens propre, hein, conservation des preuves du génocide avec les vêtements, les armes, les corps et les papiers. Donc les archives, finalement, elles appartiennent à ce monde de la preuve, ce monde de la preuve, ce monde de la conservation. Elles y appartenaient physiquement d'abord. on s'est vraiment été un peu perplexe. Et puis on s'est demandé par où on allait commencer. Et puis on a, voilà, grâce à aussi la grande intelligence, l'ingéniosité de cette équipe vraiment formidable, on a réussi à commencer une première travée. Et puis une semaine plus tard, on a décidé de séparer finalement ces archives qui étaient avec les autres preuves, de mettre les vêtements de victimes dans un petit hangar attenant pour les séparer et pour ne laisser ici que les papiers, mais voilà, ils sont encore dans leur monde, hein, de preuves et de conservation, puisqu'il y a ces cercueils qui nous accompagnent tous les jours quand on travaille.
Bonjour.
Bonjour. Placide Tuishimire.
Mon nom c'est Tuishimire Placide.
Quel beau sourire.
Ah, merci. Bon.
Voilà, c'est important de travailler ensemble, en groupe, pour faire face à des documents qui sont parfois extrêmement difficiles à lire.
Yego, biragoye, ariko burya imitima ya twese ntago ari imwe.
Le travail est dur, d'accord. Des fois, certaines personnes peuvent avoir des difficultés en apprenant les informations qui sont ici suite à leur propre histoire. Mais quelque part, c'est très bien pour nous parce que non seulement nous avons des informations, mais nous savons aussi que ce travail va contribuer à quelque chose, au moins au niveau de la justice et au niveau de la mise au clair de la vérité.
Moi, je travaille beaucoup là, à ranger un fonds donc plutôt lié au problème de santé mentale.
L'historienne Hélène Dumas.
Cette catégorie des conseillers en traumatisme, hein, qui ici est très connue, mais qui en dehors du Rwanda peut paraître un peu étrange, mais ces personnes qui, là encore, eux-mêmes la plupart rescapés, qui ont pris en charge les problèmes gigantesque, considérable, lié à ce qu'on a appelé les crises traumatiques, hein, ici, donc à souffrance psychique et morale des rescapés. Et donc on se demandait s'il y avait même un après-génocide. Est-ce qu'on peut même parler d'un après, où certes les massacres cessent, mais ce dont on est témoin ici, notamment dans ces archives, c'est que les rescapés vivent avec le génocide dans leur vie intime, dans leur vie sociale, dans leur vie comme acteur politique aussi, donc longtemps après le génocide et peut-être encore maintenant. Il y a quelque chose d'une histoire longue du génocide qui ne s'inscrit pas seulement dans un avant, dans une généalogie, puisque évidemment le premier réflexe, c'est d'aller voir comment une telle chose a pu être produite en allant chercher ces rationalités dans le passé. Mais c'est aussi de comprendre cet événement à partir, hein, de ce qu'il a produit comme innovation sociale, comme difficulté matérielle, intime. Voilà. Et c'est ce dont on est témoin ici. Et l'autre, je pense, chose très importante que l'on voit dans ces archives, c'est que ça permet également, d'un point de vue, on va dire, plus civique et politique, de mettre à la disposition toutes les actions que les rescapés ont faites pour eux-mêmes. Et ça, c'est très important quand on voit dans les conditions dans lesquelles ces rescapés vivaient dans le plus grand dénuement. Eh bien, il y a ici et là des organisations comme Ibuka, comme l'AERG, comme AVEGA, qui se sont mobilisées juste après le génocide, eh bien pour prendre en charge le sort des autres rescapés. Ça, je trouve que c'est vraiment très important de rendre compte de cette histoire-là, également de tout le savoir que les rescapés ont produit sur eux-mêmes à travers des grandes enquêtes statistiques, d'ailleurs celles qu'on est en train de ranger, de classer actuellement. C'est les rescapés qui produisent du savoir sur eux-mêmes, ce ne sont pas des experts venus d'ailleurs, mais voilà, c'est à partir de leur expérience qu'ils vont interroger les autres. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux.
Ariko rero nko mu nyandiko nk'uko nguko n'amabwiriza ya burugumestire arabwiye ati muzajya mubwira naka ibyo muzajya mugeraho muzajya mubigeza kuri.
Et c'est aussi un rescapé, membre de l'association Ibuka, qui m'accompagne dans cette grande salle des archives pour être mon interprète. Il s'appelle Jean Rusindaza et je le cherche des yeux. mais je sens une soudaine agitation et me rends compte que quelqu'un vient de faire un malaise. J'apprends à cette occasion que les rescapés réagissent physiquement à la lecture des archives. Certains ont des nausées, d'autres s'évanouissent et disparaissent quelques jours, puis reviennent pour continuer patiemment à classer. Puis je retrouve Jean dans mon champ de vision. Je réalise qu'il est totalement absorbé par la lecture d'un dossier sur lequel il est penché avec son fils. Jean, qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer à votre fils ?
Bon, je lui explique pour ce document, par exemple, c'est comment la supervision des barrières devait être organisée. Là, le bourgmestre donne des instructions. Vous, Nirugiribamba, Anastase, Twahirwa Jackson, Seouyang, Jean, Emile, Michomiza Faustin, ce sont les superviseurs de la barrière qui sont proposés par le bourgmestre. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'avec ce document, on a le rôle de ces gens-là pendant le génocide. Comme le croquis ici le montre, le croquis qui a été élaboré par le bourgmestre justement, il leur montre comment où ils doivent placer la barrière, c'est-à-dire il y aura des endroits où on va arrêter les gens, où on va fouiller, où on va vérifier et où on va trier les gens, c'est-à-dire mettre une zone où chaque personne qui va passer par là devra présenter sa carte d'identité au responsable de la barrière. Et cette barrière-là, avec la carte d'identité, si la mention est Tutsi, c'était clair, tu ne continues pas. Et ils savaient très bien que les Tutsi allaient chercher à fuir. Et sur ces barrières, il y a eu beaucoup de morts. C'était ça le principal objectif de la barrière, c'était de ne pas permettre aux Tutsis de s'échapper.
Quel est le prénom de votre fils ?
Son prénom, c'est Hervé.
Hervé, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous connaissiez le fonctionnement des barrières ?
Kuko ubu ndabyumva uburyo amabarrière yakoraga mu 1994 kuko mbere yaho nayibonaga nko mu mafilme nyine ya génocide.
Je voyais des barrières dans des films sur le génocide. Je voyais qu'il y avait des vérifications, je voyais des troncs d'arbres dans la route, je voyais des gens qui étaient là et d'autres qui passaient. Mais dans ces archives-là, je viens de comprendre comment on mettait en place cette barrière et aussi on comprend mieux le rôle des responsables dans la mise en place de ces barrières et on comprend aussi comment ça fonctionnait puisque là, on dit qu'il faut donner rapport à tel, à tel, à tel. Donc c'est dire que l'administration était impliquée dans l'exécution du génocide.
Vous êtes venu ici comme bénévole et vous avez quel âge ?
Je suis venu ici effectivement comme bénévole et j'ai 20 ans.
Vous avez 20 ans et votre famille est une famille de rescapés du génocide. Quelles sont les questions que vous vous posez encore ? Quelles sont les informations que vous cherchez ?
Murakoze. Bon, icyo mba nifuza kumenya no buryo ababyeyi banjye nyine imiryango yabo.
On cherche toujours à vouloir comprendre ce qui s'est passé pour sa propre famille parce que la famille a vécu justement le génocide. Moi je n'étais pas là, mais de façon générale on se dit qu'on comprend. Mais il y a toujours des choses qu'on cherche à mieux comprendre, parce qu'on ne comprend pas comment des gens qui vivaient ensemble, puisque nous le savons déjà à l'époque de la monarchie, nous savons que tous les Banyarwanda vivaient ensemble, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à un point où les Hutus tuent leurs voisins Tutsis alors qu'ils vivaient ensemble pendant longtemps.
Thank musa kerenduke munegera mahogo musire kugituza mbanze shiri gitengo ayimba ozene Rekanda motsa bakana twaburanye umute dusangiye twese iwawe bene data mwamenye ko yatashye atanagaye giti
Nous sommes à Kigali, au siège de l'association Ibuka, dans les archives patiemment triées et classées par les survivants du génocide des Tutsis du Rwanda, perpétré en 1994. Depuis plusieurs heures, je vais d'une table à l'autre, j'observe, j'écoute, j'essaie de comprendre ce qui se joue pour celles et ceux qui ont choisi de participer au classement des documents, des rapports, des enquêtes, des courriers sur la survie des victimes avant, pendant, mais aussi après le génocide. Comme si le temps des massacres s'étirait jusqu'à nous. Monsieur Boniface, vous êtes l'un des parajuristes qui travaille ici à Ibuka. Vous avez 62 ans, vous avez vécu l'après-génocide en tant que parajuriste. Quel est ce document que vous nous avez sorti ?
Bigaragaramo hano ko harimo abanyepolitike bakera muri MDR Parmehutu.
Dans ce rapport, on parle des anciens politiciens du temps du MDR Parmehutu.
Urebye ni naho bagiye bakorera amagerageza ya jenoside ku ngoma ya Kayibanda.
Et si on le remarque bien, c'est à Gikongoro aussi qu'il y a eu comme essai de génocide sous le régime du président Kayibanda. C'est, de façon générale, c'est entre les années 1959 et 1965, mais particulièrement en fin
1963.
Mais cela ne s'est pas arrêté, puisque ça a continué même sous le régime du président Habyarimana. Le rapport a été rédigé par celui qui l'a signé.
C'est-à-dire ?
C'est un certain Nkusi Boniface qui était un parajuriste de Ibuka à Gikongoro. En fait, il ne faut pas chercher loin. De par le nom même du poste parajuriste, nous étions censés nous intéresser à tout ce qui avait rapport avec la justice. Et
À l'époque, le grand problème que le pays avait était rattaché à la justice. Que notre fonction principale, c'était la justice sous deux aspects. D'abord, concernant les rescapés du génocide et dans leurs problèmes de justice en les accompagnant. Puisqu'on devait aussi les suivre, il y avait des fois où les rescapés amenaient des problèmes dus à l'insécurité qu'ils vivaient. Et parmi les problèmes qu'ils amenaient, il y avait aussi des cas de gens, voisins ou visiteurs, qui avaient des visées qui n'étaient pas bonnes pour les rescapés et qui finalement étaient contre le régime qui était en place.
Et
souvent, pour nous, par la justice, on voyait que ça c'était dans la négation du génocide ou le révisionnisme. Je m'appelle Kabanda Emile.
Je suis
rescapé du génocide.
Quand on lit les documents, quand on écoute vos collègues, on a l'impression que le génocide continue après le génocide. Est-ce que c'est ça aussi que racontent ces documents? Et est-ce que c'est ça aussi que vous expérimentez en tant que rescapé?
Nous tous ici, nous avons des membres de famille qui ont vécu et qui vivent même aujourd'hui dans ces conditions difficiles. Alors quand nous travaillons dans ces documents, quand nous lisons, obligatoirement nous pensons à nos familles qui ont les mêmes problèmes aujourd'hui.
Monsieur Boniface, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que le génocide a fait aux rescapés, vous qui les avez beaucoup écoutés, vous qui les avez beaucoup accompagnés dans leurs différentes requêtes?
Les rescapés après le génocide, moi aussi je vais être dans le groupe parce que c'est la même chose. Nous étions dans une solitude extrême.
En
général, vu le poids du génocide et ce que nous avons vécu, les conséquences étaient énormes. À cause de cette situation, les blessures étaient encore très fraîches. Aux conséquences du génocide s'est ajouté des conséquences liées aux conditions de vie d'après génocide.
Et
ces conditions de vie survenaient alors que le rescapé était comme quelqu'un sans racine qui n'a pas où il soit fixé. Par exemple, quelqu'un qui a perdu 50 membres de sa famille proche, il se sentait seul et n'avait aucune base sur laquelle commencer.
Vous savez, il y a un capital humain.
Alors que, comme je l'entends, de manière générale, le capital de base de tout un chacun, c'est la famille.
Et vous, monsieur Boniface, est-ce qu'il vous reste des membres de votre famille?
Nkuko nabivuze nange nasanze umuryango wanjye warashize warigizwe nk'abantu 50 na.
Comme je l'ai dit, ma famille, je me suis retrouvé, elle était exterminée, plus d'une 50aine de personnes. Aujourd'hui, je n'ai personne.
Ariko mfite umwana nari narabyaye hanze ubwo niwitwaje kuba turi kumwe ubu ngubu nyuma ya jenoside niwe muryango afite.
Mais aujourd'hui je vis avec mon enfant, un enfant que j'avais eu avant le génocide, c'est le seul qui est resté et aujourd'hui je vis avec lui.
Ariko nari namubonye nyuma kuko yari yaragiye Congo bari baramujyanye Congo interahamwe na.
Mais lui aussi, je l'ai vu tard après le génocide parce qu'il avait été amené au Congo avec les Interahamwe.
Comment s'appelle votre enfant?
Nira Safari Charlotte.
Nira Safari Charlotte.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Face au génocide dans les archives d'Ibuka, un reportage réalisé avec Igali, avec vous, Hélène Dumas, et avec toute l'équipe rwandaise des Boucas. Je suis très heureuse de vous retrouver. Combien de temps vous a-t-il fallu pour terminer tous ensemble ces milliers de pages à classer, ce classement commencé en janvier 2022?
Oui, bien, il a fallu toute une année, tout le temps de l'année 2022 pour ranger ce fonds.
Et de quelle façon aujourd'hui, hein, parce que c'est le sujet peut-être premier, la justice rwandaise mais aussi française peuvent s'en saisir pour instruire des dossiers de procès contre les génocidaires?
Oui, les archives d'Ibuka renferment des informations extrêmement précieuses dans la mesure où ces enquêtes, notamment menées par les parajuristes d'Ibuka, qu'on a entendu l'exemple de Boniface Moussi dans le reportage, sont des enquêtes de première main qui ont souvent été réalisées dans l'immédiat après-coup du génocide. Donc sont des récits, des témoignages qui sont recueillis entre 1995 et 1998, donc vraiment dans les toutes premières années qui suivent le génocide. Donc il y a, de ce point de vue-là, beaucoup d'informations précieuses qui pourront éventuellement servir les enquêtes judiciaires au Rwanda comme en France et ailleurs.
Hélène Dumas, je le rappelle, vous êtes historienne, spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda, vous êtes docteur en sciences sociales, chercheuse au CNRS, honorée de la médaille de bronze et auteure de deux livres de référence intitulés « Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda » publié en 2014 aux éditions du Seuil et en 2020 « Sans ciel ni terre, paroles orpheline du génocide des Tutsis » et c'est aux éditions La Découverte. Alors, ces archives d'Ibuka que vous comprenez, puisque vous parlez le Kinyarwanda, elles peuvent évidemment nourrir vos propres travaux, votre propre recherche, puisque ce projet de classement est soutenu conjointement par Ibuka, donc l'association des rescapés, et aussi par le mémorial de la Shoah à Paris, et vous travaillez, Hélène Dumas, avec une autre historienne, Anouche Kuntz, spécialiste d'un autre génocide, celui des Arméniens, et toutes les deux vous posez cette question extrêmement sensible, on l'a senti, pour les rescapés, celle de l'après-coup du génocide. Qu'est-ce que ça signifie finalement ?
La question qu'on se pose conjointement avec Anouche Kuntz dans ce projet soutenu donc par l'Agence nationale de la recherche, c'est cette question même de savoir s'il y a un après-coup du point de vue, s'il y a un après, tout simplement, du point de vue subjectif des survivants et des survivantes du génocide. On s'intéresse non pas aux grandes architectures politiques et sociales qui ont permis au Rwanda, dans le cas du Rwanda, de faire justice et de reconstruire une nation, mais à l'échelle des cellules individuelles, à l'échelle des cellules familiales, voir comment est-ce que cette expérience continue de vivre dans les corps, dans la psyché, dans la vie quotidienne des rescapés du génocide. Et de ce point de vue-là, les archives d'Ibuka confirment cette intuition de ce questionnement de l'après. Voilà. Est-ce qu'il y a un après? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on serait tenté de dire non. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que ces archives permettent de questionner le génocide, non pas du point de vue de sa généalogie, de l'avant, mais, mais de son étirement infini dans le temps, dans le temps des vies individuelles et familiales. Et ce que disent les amis et les collègues d'Ibuka, eh bien, est tout à fait symptomatique de ce point de vue-là. Ils se reconnaissent dans ces archives, ils reconnaissent leur propre existence, y compris dans ces archives qui racontent le dénuement matériel, le dénuement affectif, eh bien, dans lequel les rescapés se sont retrouvés après la fin des massacres en juillet 1994.
Autant d'informations produites par les parajuristes comme M. Boniface Mouzi, que nous avons entendu dans le reportage, donc des informations très précieuses pour vous aussi, chercheurs. Et au fond, c'est tout ce qui concerne son travail de parajuriste. Alors, c'est une profession, par exemple, qui n'existe pas en France. Mais comment ces parajuristes ont-ils quand même été formés? Est-ce qu'ils l'ont été? Et est-ce qu'ils ont été accompagnés, parce qu'au fond, il faut aussi un travail d'accompagnement au sens psychologique du terme, sachant qu'au Rwanda, la psychologie est un domaine extrêmement neuf.
Oui, alors il faut essayer de se représenter ce qu'était ce pays à la fin du génocide. C'est un pays exsangue, détruit, au sens le plus littéral du terme. Souvenons-nous que, par exemple, les ministères, en 1994-95, n'ont tout simplement pas de papier pour fonctionner. Les ministres n'ont pas de véhicule pour circuler. Donc, par ailleurs, le pays est jonché de corps, toutes les institutions publiques sont absolument à terre. Et ça, il faut vraiment se rappeler que le Rwanda d'aujourd'hui, le Rwanda de 2022, est très éloigné de ce qu'il était à la fin du génocide. Par conséquent, c'est là aussi que ces archives d'Ibuka sont très intéressantes, c'est qu'elles permettent de mettre au jour l'ingéniosité des rescapés eux-mêmes pour faire face à une situation de dénuement complet.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des rescapés qui accompagnent d'autres rescapés.
Tout à fait.
Tous ont vécu le génocide et certains, peut-être, se sentent un peu plus forts que d'autres.
Il y a une communauté d'expérience avec quelques-uns qui, soutenus par Ibuka, vont pouvoir recevoir des formations pour les parajuristes, des formations aux différentes lois de poursuite et de répression du crime de génocide, que ce soit la première loi du 30 août 1996 qui organise pour la première fois donc poursuite et ensuite jugement devant des chambres spécialisées dans les tribunaux de première instance, et ensuite les lois successives organisant la justice gachacha. Donc ces parajuristes ont reçu ces formations et ont ensuite été envoyés dans les campagnes, dans l'ensemble du pays, afin de sensibiliser également les rescapés à leurs droits et de les accompagner en justice. Ça a été une œuvre très importante qu'a entrepris Ibuka à partir de 1998, et notamment dans un système judiciaire qu'on connaît moins aujourd'hui, puisque les gachacha ont pris beaucoup de place dans ce système judiciaire. Mais avant les gachacha, il y avait ce système de chambres spécialisées devant les tribunaux de grande instance. Et les parajuristes soutenaient les rescapés, aidaient les rescapés, par exemple, à se constituer partie civile. Et on a beaucoup de fiches dans les archives d'Ibuka qui sont des constitutions de partie civile avec déjà des premiers récits, des premières accusations, donc des rescapés pour porter leurs droits devant les tribunaux.
Alors, moi, j'ai été très frappée physiquement. J'ai ressenti très très fort dans cette grande salle des archives d'Ibuka à la fois ce phénomène de groupe, c'est-à-dire que personne ne travaille seul, on travaille à deux, on travaille à trois, on travaille à quatre. On l'a compris, c'est très éprouvant et parfois certains craquent. Mais j'ai senti aussi à la fois cette bienveillance, mais aussi à la fois une présence de la violence. C'est-à-dire, à cause de ce qu'il y a décrit dans les archives, à cause aussi du fait qu'il y a le témoignage de la violence qui est sur une estrade, puisqu'il y a des cercueils dans la salle. Et face à ces cercueils, il y a une énorme pile de documents. Et vous, l'équipe d'Ibuka, vous avez intitulé cette pile « Ruargwa ». Alors, je sais que c'est une enquête initiée par Ibuka entre 1988 et 1999, mais j'aimerais que vous puissiez expliquer à nos chers auditeurs ce que ça veut dire déjà, Loarj Gwa, et à quoi correspond cette pile et cette enquête?
Oui, alors c'était une des enquêtes que l'on a retrouvées dans les archives et qui n'a jamais été fait l'objet d'aucune publication, qui n'a jamais été publiée. C'est une enquête donc, qui a été menée entre 1997 et 1998. Il s'agissait pour Ibuka de recenser dans l'ensemble des anciennes communes du Rwanda, les 145 communes, cinq personnalités correspondant à des tueurs de renom. C'est ce que veut dire Ruhar, quoi. Des tueurs
de
renom.
Des grands tueurs.
Des grands tueurs. Et cette enquête, donc, qui forme une pile assez élevée, eh bien, on l'a reconstituée parce que ce fond était très dispersé aussi en lui-même. C'était un immense puzzle, ce fond d'archives. Il a fallu remettre tas par tas, identifier chaque enquête. C'est pour ça que le travail de catalogage, de tri, a nécessité un investissement important dans la lecture des archives. Ce qui a fait aussi toute la violence en retour de ce travail. Ce n'est pas un travail technique, c'était un travail de lecture et il fallait s'imprégner des archives pour pouvoir ensuite les reconstituer ces différentes enquêtes.
Et les remettre dans l'ordre au fond.
Exactement. Donc c'est cette enquête est extrêmement intéressante parce qu'elle permet là encore de voir comment dans l'immédiat après-coup du génocide, eh bien, s'encloche toute une volonté de savoir là encore à l'initiative des rescapés du génocide.
Donc cela veut bien dire, Hélène Dumas, que juste après le génocide, il y a à la fois pour Ibuka cette urgence de porter secours à la communauté des rescapés qui n'ont plus rien sur aucun plan, qui sont dans une détresse absolue. Boniface Mouzi a rappelé qu'il était tout seul et qu'il avait perdu 50 personnes de sa famille puisqu'il n'a retrouvé que dans un second temps son unique enfant survivant. Mais l'urgence est aussi tout de suite, même dans ce dénuement, c'est tout de suite de documenter la mise en œuvre la plus locale, en fait, du génocide.
Oui, c'est quelque chose que je le dis d'ailleurs, c'est que je trouve particulièrement touchante dans ces archives, et c'est la manière dont s'organise, de la part des rescapés, une volonté de construire un savoir sur eux-mêmes, construire un savoir sur leur propre histoire. Et ça, c'est quand même tout à fait surprenant quand on sait dans quel dénuement vivaient les rescapés à cette période. Néanmoins, ce ne sont pas des victimes passives. Ce sont des acteurs politiques, au sens le plus fort du terme, qui sont capables de volonté, et ils font preuve de volonté, pour non seulement venir en aide aux plus vulnérables d'entre eux, mais aussi produire du savoir sur eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important à souligner, et que, je l'espère, ces archives permettront de mettre en valeur.
Et cela fera peut-être l'objet d'un prochain livre signé Hélène Dumas?
Alors, ce sera un prochain livre de ma part, ou je l'espère, de futures recherches d'étudiants et d'étudiantes rwandais, rwandaises ou étrangers ou étrangères, parce que ces archives, elles ne vivront au fond que lorsqu'elles seront travaillées. Travaillées par les chercheurs, mais également par les rescapés et leurs descendants. L'idée, c'était aussi de pouvoir mettre à disposition les archives comme des objets de transmission. Et on l'a bien vu à travers l'exemple de Jean et de son fils. Ces archives sont comme une sorte de médiateur entre un père et son fils pour dire des choses qui, dans un autre cadre, ne sont pas dissibles.
Parce qu'au fond, Hélène Dumas, et vous le savez très bien, avoir vécu génocide ne signifie pas pour autant connaître l'histoire du génocide.
Bien sûr, et on le voit très bien à travers ce que disent les collègues, les amis. Ils apprennent des choses en classant ces archives. Ils apprennent sur leur propre histoire, leur histoire personnelle et familiale, mais aussi sur l'organisation du génocide, et en particulier le rôle de l'État et de l'administration.
Et comme vous l'avez souligné, on l'a entendu, ce besoin de connaissance dans les mots d'Hervé, le fils de Jean Ruzindaza, qui a montré ses talents d'interprète dans ce reportage. Merci beaucoup.
Merci Valérie.
Merci Hélène Dumas, merci à toute l'équipe d'Ibuka que j'embrasse très fort, et mes amitiés bien sûr à Monsieur Boniface. Muhorite ye itabye imana muzatwisangire nyina umubyara
nyambo yicheza tumuhumarikira nyambo yicheza tumuhumarikira chomuje shirishavu mucho dahinyuka yitabye imana yasanze abacuba tari bakeya mwazadutahiriza rugwa mwazadutahiriza rugwa.
Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Toutes les informations sont disponibles sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr, Facebook et Twitter. Réagissez, podcastez, cette émission encore et toujours, c'est la vôtre.
Mmh.